Frères et sœurs, le dernier dimanche d'octobre, bien des églises protestantes ont une petite pensée pour Martin Luther, qui, le 31 octobre 1517, aurait affiché 95 thèses sur la porte de sa paroisse en vue de réformer l'église chrétienne. Alors cette commémoration n'a pas pour but de nous rappeler la pensée de Luther, ni celle de Calvin. Je dois reconnaître, un peu à ma honte, que je n'ai jamais lu un seul livre en entier, ni de Luther, ni de Calvin. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas finalement calvinistes ou luthériens, nous sommes chrétiens avant tout d'abord. Mais cette commémoration de ce geste de Luther, c'est comme un rendez-vous qui est marqué dans notre agenda, avec cette mention « Pensez à me réformer ». Et je crois que c'est comme un appel à ne pas nous endormir sur nos lauriers, sur notre bonne théologie, sur notre vie actuelle, qui n'est pas si mauvaise que ça, finalement. Mais il y a encore une marge de progression, et pour penser à nous réformer, pour chercher quelques idées pour cela, eh bien j'ai cherché dans la Bible, justement, et non pas dans un sermon de Martin Luther ou de Calvin, j'ai cherché dans la Bible ce qui pouvait nous donner un peu des pistes pour pouvoir nous réformer. Et j'ai trouvé dans le récit de ce que fait le roi Ézéchias une méthode très simple, finalement, qu'il nous propose en 6 petits points pour restaurer, pour réformer le pays, pour réformer son être aussi, pour réformer son temple intérieur. Le récit, vous allez l'entendre, commence en précisant qu'il parle d'un homme qui fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et qu'il fait en tout point ce qu'il est juste de faire. Et donc, puisque le texte insiste qu'il fait en tout point ce qu'il est juste de faire pour avancer, pour réformer, eh bien, je vous propose de suivre cette histoire point par point pour chercher ce que cette histoire ancienne, dans le livre des Chroniques, nous propose comme piste, eh bien, pour avancer, pour nous réformer, pour raviver notre foi, pour purifier notre foi aussi peut-être, notre espérance et notre façon d'aimer. Alors c'est au chapitre 29 du deuxième livre des Chroniques que je vous propose de suivre cette histoire d'Ézéchias. Ézéchias devint roi à l'âge de 25 ans et il régna 29 ans à Jérusalem. C'est lui qui, la première année de son règne, au premier mois, ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et les répara. Il fit ensuite venir les sacrificateurs et les Lévites. Il les assembla sur la place et leur dit « Écoutez-moi, Lévites, maintenant sanctifiez-vous, sanctifiez la maison de l'Éternel, le Dieu de vos pères, et mettez ce qui est impur hors du lieu saint. Car nos pères ont été infidèles. Ils ont fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, notre Dieu, ils l'ont abandonné. Ils ont détourné leur regard du sanctuaire de l'Éternel, et ils lui ont tourné le dos. Ils ont même fermé les portes du vestibule. Ils ont éteint les lampes. Ils n'ont offert au Dieu d'Israël ni parfum ni holocauste dans le saint lieu. Aussi, l'indignation de l'Éternel s'est répandue sur Juda et sur Jérusalem, et Juda et Jérusalem ont été un objet de terreur, de désolation et de moquerie, comme vous le voyez sous vos yeux aujourd'hui. Voici que nos pères sont tombés par l'épée, et que nos fils, nos filles, nos femmes sont en captivité à cause de cela. Et maintenant j'ai à cœur de conclure une alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. Maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir devant lui à son service, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums. Ils assemblèrent leurs frères et après s'être sanctifiés, ils vinrent purifier la maison de l'Éternel selon l'ordre du roi et d'après les paroles de l'Éternel. Les sacrificateurs entrèrent dans l'intérieur de la maison de l'Éternel pour la purifier. Ils sortirent toutes les impuretés qu'ils trouvèrent dans le temple de l'Éternel, jusque dans le parvis de la maison de l'Éternel, où les Lévites les reçurent pour les emporter dehors dans le ravin du Cédron. Ils commencèrent ensuite à sanctifier le temple le premier jour du mois, le premier jour du premier mois. Le huitième jour du mois, ils entrèrent dans le vestibule de l'Éternel et ils mettent 8 jours à sanctifier la maison de l'Éternel. Le 16e jour du premier mois, ils avaient achevé. Ils entrèrent ensuite chez le roi Ézéchias et lui dirent « Ça y est, nous avons purifié toute la maison de l'Éternel, l'autel des holocaustes et tous les accessoires, la table aux rangées de pain et tous les accessoires. Nous avons remis en état, nous avons sanctifié tous les objets que le roi Ahaz, dans son infidélité, avait profanés pendant son règne et nous les avons replacés devant l'autel de l'Éternel. » Le roi Ézéchias alors se leva de bon matin, il assembla les chefs de la ville et monta à la maison de l'Éternel. On amena en sacrifice pour le péché 7 taureaux, 7 béliers, 7 agneaux et 7 boucs pour la royauté, pour le sanctuaire et pour Juda. Le roi dit aux sacrificateurs, fils d'Aaron, de les offrir sur l'autel de l'Éternel. Il fit placer les Lévites dans la maison de l'Éternel avec des cymbales, des luttes et des harpes, selon la disposition de David et de Gad, le voyant du roi et du prophète Nathan. Car c'était un ordre de l'Éternel transmis par l'intermédiaire des prophètes. Les Lévites prirent place avec les instruments de David et les sacrificateurs avec les trompettes. Ézéchias dit qu'on offre l'holocauste sur l'autel et au moment où commença l'holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel avec les trompettes et l'accompagnement des instruments de David. Toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique de l'Éternel et on sonna les trompettes, le tout jusqu'à ce que l'holocauste fût achevé. Quand on eut achevé d'offrir l'holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui s'inclinèrent et se prosternèrent. Puis le roi Ézéchias et les ministres dirent aux Lévites de louer l'Éternel avec les paroles de David et du voyant Asaph. Ils le louèrent avec des transports de joie et ils se prosternèrent. Ézéchias prit alors la parole et dit « Maintenant que vous avez été investis pour l'Éternel, approchez-vous, amenez des victimes en sacrifice de reconnaissance à la maison de l'Éternel. » L'assemblée amena alors des victimes et offrit des sacrifices de louange et tous ceux dont le cœur était généreux offrirent des holocaustes. Le nombre des holocaustes amenés par l'assemblée fut de 70 têtes de gros bétail, 100 béliers, 200 agneaux, tout cela en holocauste à l'Éternel. On consacra encore 600 têtes de gros bétail, 3000 têtes de petit bétail. Ainsi fut rétabli le culte à la maison de l'Éternel. Ézéchias et tout le peuple se réjouirent de ce que Dieu avait tout préparé à l'avance pour le peuple, car l'événement eut lieu subitement. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le psautier français le psaume 62, 62b en fait, dans le psautier français, « En toi, mon Dieu, toi seulement, j'ai trouvé l'apaisement ». Le psaume 62b. Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta présence pour nous ouvrir à ton amour et nous unir à ta vie. Fais taire en nous toute voix contraire à la tienne et permets que nous sachions recevoir ta parole, non seulement l'entendre, mais aussi la recevoir, non seulement la connaître, mais aussi la goûter, l'apprécier, non seulement l'apprécier, mais la mettre en pratique. Oui, éternel notre Dieu, ouvre par ton esprits, nos cœurs, nos vies tout entières à ta fidélité. Je vous propose donc de suivre les pistes que nous donne ce livre des chroniques à travers l'histoire d'Ézéchias pour nous réformer sans cesse un petit peu. La première indication qui nous est donnée, c'est qu'Ézéchias entreprend cette réforme la première année de son règne, au premier mois. Il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Et donc pour réformer son royaume, pour avoir une vie avec moins de souffrance, avec plus de beauté, comme un préalable, il nous dit que c'est bon de remettre sur pied notre foi. C'est également ce que nous propose l'Évangile selon Jean, quand il ouvre l'Évangile ainsi, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Alors c'est un conseil très pratique finalement, qui demande juste comme à Ézéchias un peu d'organisation, un peu de méthode. Nous voulons mettre un peu d'ordre dans notre vie, nous voulons réfléchir, prendre des bonnes résolutions, repartir d'un meilleur pied. L'urgence c'est d'abord de réformer notre foi, de repartir d'une vraie nouvelle recherche de Dieu. Et c'est extrêmement fécond. Alors la deuxième piste, c'est d'ouvrir et de réparer les portes. Alors on aurait dit, bon, c'est un peu curieux quand même, c'est un peu secondaire, les portes extérieures finalement. On préférerait, je ne sais pas, commencer vraiment par le cœur de notre foi. Eh bien non. Cette recherche, cette réforme de notre foi, elle passe d'abord par une ouverture et une réparation des portes de notre temple intérieur. Il faut s'ouvrir l'esprit pour se réformer. Il faut aérer nos idées, il faut faire prendre l'air à notre théologie, à nos convictions. Eh bien, c'est également ce que propose encore une fois l'Évangile selon Jean, quand Jésus se compare à une porte. Et il explique. Cette porte, d'abord, ça permet d'entrer dans la présence de Dieu, mais pas seulement. Cette porte aussi, nous dit Jésus, c'est la porte qui laisse la liberté d'entrer et de sortir à notre guise, d'entrer en présence de Dieu et de sortir dans le monde. Et c'est cette respiration qui est vraiment le souffle nouveau dans notre existence, cet aller-retour en présence de Dieu et en présence du monde. Ouvrir et réparer les portes de notre temple intérieur, ce conseil que nous donne le livre des Chroniques, c'est très pragmatique, c'est très simple, c'est très concret finalement. Pas besoin finalement d'avoir la foi pour ça. Il suffit d'avoir le désir d'avoir la foi. Il faut d'abord travailler sur les portes d'entrée, oui. Les portes qui mènent en présence de Dieu. rien qu'en attrapant une Bible, ou en sortant de sa couette un dimanche matin, oui, un dimanche matin, pour aller au culte. On ouvre déjà un peu les portes de notre temple intérieur. On verra ce qui va venir après. Mais déjà là, il y a comme un désir de réforme, un désir de foi. Et c'est déjà la foi, comme nous dit Blaise Pascal, par exemple. Même si en lisant la Bible, on tombe sur un livre difficile, comme le livre des Chroniques, même si en chemin vers l'oratoire, le métro tombe en panne et que finalement on ne peut pas y aller, même si dans notre prière, notre début de prière, nous ne sentons rien, eh bien tant pis, rien que dans ces gestes, on commence déjà à dérouiller un petit peu les gonds de la porte de notre temple intérieur. Pendant une seconde, notre esprit s'est tendu vers Dieu, notre esprit s'est ouvert à la bonne action de Dieu dans notre vie. Mais comme nous le dit Jésus, la porte, elle ne sert pas qu'à entrer en présence de Dieu, elle sert aussi à sortir. Et donc nous avons toujours un besoin vital de sortir, comme je le disais en commençant, pour aérer notre foi. Et finalement, c'est un peu la démarche de Gilles, oui. Dans notre être intérieur, tout seul, on peut déjà progresser dans cette ouverture à Dieu, mais ensuite, il y a un moment où il faut sortir, aérer notre foi, rencontrer d'autres, chercher Dieu avec d'autres. Nous avons un besoin vital d'aérer notre foi, mais aussi de la mettre en pratique, c'est-à-dire de vérifier notre théologie dans le rapport au monde, de confronter nos convictions à la réalité, de les discuter avec d'autres chrétiens, mais aussi avec d'autres croyances, de les confronter à la science, à la philosophie, avec l'actualité la plus ordinaire de notre existence quotidienne, mais aussi de confronter ce que nous pensons à la grande histoire, finalement. Bien des idées théologiques, ou bien des idées éthiques, aussi des principes éthiques, éternels, magnifiques, ne résistent pas quand on les confronte avec un peu de bon sens à la réalité de la vie en ce monde. Alors sortir pour vivre aussi, oui, en cohérence avec notre foi et nos idées, il faut donc, oui, entrer en présence de Dieu et sortir dans le monde pour vivre notre foi, nos convictions. Alors on pourrait dire, oui, Ézéchias, s'il ouvre les portes, c'est bien, mais tant qu'à faire, il pourrait les démonter, que jamais elles ne se ferment. Eh bien non. Ézéchias n'ouvre pas seulement une porte, d'abord il en ouvre plein, nous dit le texte, comme pour se ménager plusieurs moyens différents d'entrer en présence de Dieu, se ménager de multiples moyens d'ouverture et d'aération pour notre théologie, notre foi. Et puis, cette réparation des portes, ça laisse bien supposer qu'il faudra de temps en temps les fermer. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour l'ouverture des portes et un temps pour la fermeture des portes. C'est utile, oui, de savoir fermer la porte aussi, la porte de notre temple intérieur, pour nous obliger peut-être nous-mêmes à prier encore un peu, à nous obliger à rester dans ce monde intérieur, finalement, dans ce monde spirituel, avant de passer trop vite à l'action, peut-être, ou de rester simplement à la surface des choses, de creuser un peu, de nous fatiguer, à nous poser des questions, à prier, oui. Et puis c'est utile aussi de savoir de temps en temps fermer cette porte quand nous sommes dans le monde et que le spirituel ne serait qu'un moyen de se réfugier finalement, qu'une fuite ou un confort à bon compte. Donc il y a des moments, voyez, où il faut se contrôler un peu et maîtriser la fermeture de cette porte, pour nous garder encore un peu dedans ou encore un peu dehors, selon ce qui est juste et bon pour nous et pour le monde. Alors donc, le deuxième point, c'était l'ouverture et la réparation des portes. Le troisième point, c'est de faire du ménage. Alors une fois ces moyens mis en place par les ouvertures et la contemplation du monde, l'action dans le monde, Ézéchias rassemble tous les prêtres, les lévites, et les met au travail pour donner un bon coup de ménage dans le temple. Ils débarrassent les ordures qui l'encombrent, ils arrangent ce qui doit l'être réparé, ils réparent le mobilier, et puis ils replacent tout cela devant l'autel de l'Éternel. Alors Ézéchias nous dit que c'est le travail des prêtres du temple, c'est-à-dire que c'est le travail de la théologie et de la prière en nous. Il y a certainement, oui, un bon service là, dans la théologie, la réflexion, la prière, pour faire du ménage dans notre existence, dans notre Église aussi, bien sûr, dans nos préoccupations, dans nos prières, dans nos convictions théologiques, dans nos opinions, dans nos idéaux, voilà, dans nos priorités, dans nos agendas, dans plein de choses. Mais Ézéchias ne met finalement pas grand-chose à la poubelle, on le voit. Il est surtout question ici de nettoyer, de réparer, de remettre les choses en ordre à leur place. Et ça, leur place, c'est d'être disposé devant l'autel de l'Éternel. Et effectivement, le simple fait de placer, comme le suggère Ézéchias, les différentes dimensions de notre existence, les différentes facettes de notre personnalité, de notre vie quotidienne, devant Dieu, eh bien ça remet les choses extraordinairement en perspective. Ça permet de réordonner les priorités, de relativiser tout un tas de choses dont nous faisions une montagne et qui ne sont finalement que peu. Oui, le simple fait de replacer les différents éléments de notre vie, bon, après avoir jeté les ordures à la poubelle, bon, ça fait déjà bien du bien, mais replacer les différentes choses de notre vie face à Dieu, placer devant lui nos rancœurs et nos attachements, nos blessures, nos souffrances, mais aussi notre espérance, nos joies, notre passé, nos agendas, encore une fois, tout cela placé devant Dieu, eh bien, pour une purification et une mise en place, il y a là quelque chose de formidablement fécond. Alors peut-être pas instantanément, il faut 2 fois 8 jours à Ézéchias et à son équipe pour arriver à mettre un peu de l'ordre dans ce chantier. Parfois, il nous faut un peu plus que 2 fois 8 jours pour vraiment remettre de l'ordre dans notre foi, dans notre vie, mais c'est un travail qui produit du fruit bien plus vite et bien mieux que ce qu'on aurait pu imaginer. Ça, c'est la conclusion de toute cette histoire. Ézéchias et son équipe sont éblouis, ébahis devant le succès de leur entreprise modeste. Donc, faire du ménage, un peu arranger, mettre en ordre, mettre en place devant Dieu. Déjà ça, c'est un très très grand pas dans cette réforme. Mais ça continue ensuite avec 3 autres petits points qui sont là aussi essentiels, je pense. Le point suivant, c'est une convocation. Le premier geste de réforme était une purification, une remise en ordre de notre foi, dans notre espérance et dans notre amour, mais on voit Ézéchias se lever de bonheur, rassembler tout le monde, plus seulement les prêtres, les lévites, la foi, la théologie, la prière, mais voilà, tout le monde. Et de leur demander de monter vers le temple pour sacrifier toutes sortes de bétail. Alors pour nous, à la suite du Christ, qu'allons-nous faire de ces sacrifices de dizaines de bœufs, des ruissellements de graisse chaude? C'est difficile, car effectivement, avec le Christ, la question n'est pas de faire des actes religieux extraordinaires. C'est pas tellement son style, en fait. Alors, les 2 étapes précédentes, c'était plutôt, je crois, des étapes de religion personnelle, c'est vrai. Mais cette étape-ci de sacrifice, il y a tout le peuple qui est convoqué. Donc je pense que ce n'est pas, là encore, du religieux. Ce n'est plus du religieux, plutôt. Mais ici, c'est tout le peuple qui est appelé. Et par conséquent, je crois que c'est plus finalement de l'ordre de la vie pratique. C'est plus nos différentes dimensions de notre existence, nos différents moyens que nous avons de vivre, de nous exprimer, d'évoluer, qui sont ici convoqués pour qu'ils bénéficient de cet élan de réforme, cet élan de croissance, de résurrection et de vie que Dieu donne. Et auquel on s'est ouvert dans les premières étapes, qui étaient plutôt des étapes spirituelles, théologiques, existentielles. Alors c'est en nous, pas seulement la foi et la prière, mais l'homme tout entier qui est appelé à s'élever et à se réformer, c'est en nous le consommateur et le citoyen qui est appelé, c'est le fils ou la fille que nous sommes, oui, le membre d'une famille, c'est en nous le père, la mère, c'est en nous l'ami peut-être, c'est en nous le collègue de travail qui est convoqué finalement pour être confronté, élevé, ressuscité, réformé à la suite de cette ouverture à la foi. C'est toutes les facettes de notre être qui sont mises en mouvement par la foi ravivée. Alors le point supplémentaire après cette convocation, eh bien c'est un peu de repentance et beaucoup de louanges. Il y a ainsi un effort de rassemblement de notre être pour faire ces deux choses, là encore très fondamentales, je crois, oui, un peu de repentance et beaucoup de louanges. Alors notre tendance naturelle, ce serait plutôt l'inverse, de nous voir nous-mêmes négativement, de voir le monde très négativement, voir nos rapports aux autres d'une façon peut-être trop amère, trop désespérée, trop critique par rapport aux autres, par rapport au monde, par rapport à la politique, par rapport à tout, et puis par rapport à nous-mêmes aussi. Tant de noirceur finalement. Mais sans cesse, l'Évangile nous appelle à plus de bienveillance et de joie. Donc oui, de la repentance. Mais ici, il y a 7 bœufs offerts pour la repentance, oui, pour l'autocritique, pour se regarder en vérité, pour regretter ce qui ne va pas. Mais 70 bœufs pour la louange et encore 600 de plus pour une extraordinaire chant de reconnaissance à Dieu. Donc oui, un peu de critique, un peu de remords, de repentance et beaucoup de louanges. C'est dans cet équilibre, finalement, que l'on va pouvoir vraiment avancer dans notre existence et peut-être aussi, de temps en temps, faire un peu participer à faire avancer les autres et le monde. Après le travail intérieur sur le temple, Ézéchias passe donc aux opérations lourdes avec ses sacrifices de toutes sortes de bestiaux qui partent en fumée entièrement vers l'Éternel. Alors, comment traduire finalement ces sacrifices, ces holocaustes? Comment traduire ça? Eh bien, je dirais, j'y verrais un appel à un geste concret. Alors, le travail intérieur, oui, c'est la base, mais il faut qu'il s'incarne, ne serait-ce que par ce petit geste gratuit qu'est le sacrifice d'un poulet. Qu'importe. Mais ce petit geste, c'est déjà comme une graine de réforme qui s'incarne dans notre existence. Oui, nous avons besoin, je crois, après cette prise de conscience, cette ouverture, cette remise en perspective, nous avons besoin de faire au moins des petits gestes, finalement, des petits gestes pour progresser et pour faire progresser, ne serait-ce qu'un petit geste symbolique, selon nos forces, mais un geste qui nous coûte déjà, un geste qui fait avancer. Tout le peuple est appelé à faire un geste selon ses moyens, que ce soit un bœuf entier ou un pigeon. Nous pouvons ainsi convoquer toutes les dimensions de notre existence pour qu'elles participent à un geste de repentance vrai. Oui, un geste qui marque la fin de la négligence et la prise en main de notre vie avec l'aide de Dieu. Alors on peut avoir par exemple un geste vers quelqu'un qu'on a blessé. Alors, ce n'est pas un petit geste qui va pouvoir tout réparer, tout effacer, bien sûr. Mais nous avons besoin de faire ce geste. Et la personne, l'autre, en a besoin. Alors, on n'a pas toujours les forces, mais c'est pour ça qu'il faut sans cesse initier ce processus de réforme. Nous pouvons avoir un geste pour notre corps, pour notre santé. Nous pouvons avoir un geste pour améliorer notre connaissance, pour savoir un peu plus de choses, pour nous poser des questions, pour mieux savoir, un geste pour réformer, exercer notre intelligence. Nous pouvons avoir un petit geste de solidarité, déjà qui nous arrache un peu le cœur, mais parce que c'est toujours dur finalement quand on touche au porte-monnaie, mais un petit geste pour quelqu'un comme ça qu'on ne connaît même pas, mais un geste qui l'étonne et qui nous étonne d'avoir pu le faire. Ézéchias nous propose de consacrer un peu de temps à chercher un petit geste concret selon ce que notre foi nous inspirera. On n'est plus sous une loi, voilà, il faut faire ceci, il faut faire tant de prières, il faut donner tant d'aumônes, bien sûr. Selon ce que notre foi nous inspirera, selon nos moyens, car oui, c'est la foi qui est la source et le début de réforme. Et ce geste ne compte, ne marche que si c'est un geste qui sort de plus profond de nous-mêmes, voilà. Et le miracle qui consiste à pouvoir faire le moindre geste, eh bien cela vient de Dieu, car oui, c'est un miracle. C'est pourquoi Ézéchias accompagne le geste concret de repentance par un chant. Mais ce n'est pas n'importe quel chant, le texte nous dit que c'est le chant de l'Éternel. Alors ce chant, c'est bien connu, c'est le chant que chante Moïse avant de mourir et qui est comme une sorte de testament finalement. Testament qui remet en perspective le salut que Dieu donne avec l'histoire des générations passées et avec notre propre histoire. C'est un chant de mémoire et de responsabilité. C'est un chant qui dit que nous pouvons vraiment compter sur l'aide de Dieu aujourd'hui, mais que Dieu ne peut pas nous délivrer malgré nous. Et donc oui, un travail sur notre foi, un petit geste après l'autre, et puis un petit geste qui s'accompagne là encore d'une reprise théologique, une remise en corrélation, en relation avec ce que nous dit la Bible du salut de Dieu. Un petit geste comme offert à Dieu, comme un geste gratuit, mais qui marque un engagement de notre personne dans un mouvement d'élévation vers Dieu. Alors après cette repentance, encore une fois, je ne voudrais pas que cette repentance soit culpabilisante ou soit une façon, une noirceur. Au contraire, beaucoup de louanges, énormément de louanges, nous est proposé dans le sixième et dernier point. C'est la dernière étape, mais c'est la plus importante, je crois. Pour une part de repentance, Ézéchias ajoute 10, voire 100 parts de louanges et de reconnaissance. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul quand il nous dit solennellement « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, nous dit Paul, « Réjouissez-vous, soyez reconnaissants ». La louange, la reconnaissance, c'est bien la clé de voûte de cette démarche de résurrection que nous propose la Bible. C'est la joie de découvrir, comme le disait Gilles d'ailleurs, c'est une surprise qu'il dise ça, parce que c'est par ça que je voulais terminer. C'est une joie de pouvoir ouvrir les yeux sur le monde et être ébloui par tant de beauté dans ce monde et dans ceux qui nous entourent, mais en nous-mêmes aussi. C'est extraordinaire de pouvoir ouvrir les yeux, de pouvoir commencer à regarder, à chercher ce qui est bon, de le reconnaître, de le voir et de s'en réjouir. De s'en réjouir, mais aussi de le penser, de le ruminer, de le dire, de le chanter, et de le valoriser, finalement. Être reconnaissant, cela s'éduque, cela s'entraîne comme un muscle. C'est être heureux d'être en vie, c'est être heureux d'avoir cette incroyable qualité d'être que nous avons, qui nous habite. Qualité d'être qui nous permet de se réjouir, qui nous permet de nous remettre en cause, de réformer, d'avancer. Se réjouir d'une petite chose, même seulement, que l'on a pu faire, ou dont qu'on a pu recevoir, qui nous est arrivé. Être capable d'avoir le courage de dire aux autres notre joie et notre reconnaissance. Là encore, faire un geste, en faire même 10, en faire même 100 si nous le pouvons, pour bien marquer notre louange, bien plus encore que notre déception, et rendre gloire à Dieu encore et toujours, car il est la source. Et tout cela fait un bien fou. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
Thank you.